Vous êtes sur RTL. Jusqu'à minuit 30, parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTL.
Bonsoir, c'est Caroline Dublanche, heureuse de vous retrouver. Vous voulez discuter, me confier vos états d'âme, vos doutes, vos questionnements. Je suis là pour vous, vous avez toute mon attention. Toutes vos questions sont les bienvenues au standard de Parlons-nous. Jusqu'à minuit et demi, Sarah et Paul vont vous accueillir au 09 69 39 10 11. Sous le regard attentif de Marc Bisset à la réalisation de l'émission. Et à tout moment, vous pouvez donner votre point de vue en envoyant un petit SMS au 64 900, code RTL, 35 centimes par SMS, ou en nous laissant vos messages sur notre page Facebook RTL-Parlons-nous. Avant d'accueillir Cécile, je voulais vous recommander un documentaire bouleversant qui a été diffusé ce soir sur la chaîne LCP et qui s'intitule « Enfants de femmes battues, les oubliés ». Géraldine Levasseur, dans ce documentaire, donne la parole à 5 enfants devenus majeurs qui racontent leur enfance meurtrie, oubliée et considérée comme des victimes collatérales. Les enfants de femmes battues sont bien souvent des rescapés. Les scènes de violence psychique et physique auxquelles ils ont assisté continuent de les hanter encore des années après. Un juge pour enfants interviewé compare d'ailleurs leur traumatisme à des traumatismes de guerre. La médiatisation des féminicides a contribué à nous sensibiliser à l'ampleur du problème des violences faites aux femmes. Mais on ne parle jamais des conséquences sur les enfants, de la violence par ricochet qu'ils subissent également. Alors ce documentaire de Géraldine Levasseur est à voir absolument. Il sera diffusé à nouveau ce samedi à 9h du matin sur la chaîne LCP et je vous le recommande. Bonsoir Cécile.
Bonsoir Caroline.
Bonsoir.
Merci pour la recommandation du documentaire. J'ai bien noté.
Ah oui, vraiment, c'est. Je trouve, comme je disais, c'est vrai qu'on parle et c'est bien qu'on en parle des féminicides et de. Mais les enfants sont souvent les grands oubliés de l'histoire.
Et
ce documentaire est vraiment poignant. Il y a beaucoup de professionnels aussi, psychothérapeutes, ce juge pour enfants qui est formidable. Et puis ces témoignages de rescapés, en fait.
Mmh. D'accord.
Alors vous, Cécile, vous voulez me parler ce soir de votre mère, du rapport très compliqué que vous avez avec elle, je crois.
Oui, et c'est exactement ça. Je me trouve dans une situation assez difficile avec elle là en ce moment, et puis je ne vois pas vraiment. J'ai du mal à avoir une issue à ça.
Oui.
Et pour vous planter le décor, c'est que ma maman a toujours eu des troubles psychiques.
D'accord.
Depuis, je l'ai toujours connue comme ça. C'est-à-dire qu'elle a souffert de troubles alimentaires. Elle souffre toujours de troubles alimentaires, d'ailleurs.
Qui se manifeste anorexie, d'accord.
Anorexie mentale, boulimie. Alors, la boulimie, elle l'a plus, mais elle a toujours l'anorexie mentale.
Oui.
Moi, je l'ai toujours connue ainsi. Et donc, elle a été, on va dire, défaillante pendant notre enfance. Une sœur plus jeune.
Oui.
Et elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a même fait partie d'une secte à un moment.
Oui.
Et donc, elle a pas vraiment pu s'occuper de nous. Mon père était très, très absent aussi. Et heureusement, on avait une grand-mère quand même qui tenait la route, donc qui nous prenait en charge les mercredis, les week-ends, les vacances, oui. Quand on était malade.
Heureusement, oui. Grand-mère maternelle ou paternelle ?
Paternelle.
D'accord.
Paternelle. Mmh. Donc, quand j'ai eu 12 ans, ma sœur 10, elle est partie. Après plusieurs séjours en hôpital psychiatrique, elle est partie vivre dans le sud à 1000 km.
Vous laissant comme ça à votre père.
Notre père, mais qui était alcoolique, qui était défaillant aussi. Ouais. Donc on avait cette grand-mère, heureusement.
Heureusement, c'est elle qui vous a recueilli et qui s'est occupée de vous.
Elle était là en arrière-plan, mais on vivait avec avec mon père.
Ah oui.
Voilà, donc entre 12 et 16 ans. Et puis à 16 ans, mon père est parti aussi. Il est parti rejoindre ma mère, donc. Et on les a pas revus, en fait. Enfin, on les a revus très ponctuellement, quelques fois, quand nous, on descendait là-bas, mais ils sont jamais revenus, ni l'un ni l'autre.
Ah oui, c'est vraiment... terrible pour vous, heureusement qu'il y avait votre grand-mère paternelle. Vous avez pu vous appuyer sur elle et certainement c'est elle qui a pris soin de vous et qui vous a aidé à vous construire.
Oui, exactement. Oui, c'était un repère pour
vous. Ben oui.
Et je suis très reconnaissante. Bon, elle est décédée en 2017 à 104 ans. Elle était là. On l'a eu un bon moment quand même.
Ah oui, c'est formidable. Oui, elle a.
Ouais.
Comme
oui.
si elle, il fallait qu'elle reste là pour vous le plus longtemps possible.
Oui, voilà. Ah oui. Bon, à la fin, c'est nous qui nous occupions d'elle.
Bah oui, c'est un juste retour des choses. Oui.
Voilà. Donc, entre l'âge de 12 ans et là, maintenant, j'en ai 43, donc 30 ans se sont écoulés,
oui.
où ma mère était totalement absente. C'est-à-dire que elle s'est pas occupée de nous pendant l'adolescence. Après, je suis partie à l'étranger. Bon, j'étais livrée à moi-même complètement à 18 ans, même financièrement. J'ai jamais eu, ils m'ont pas aidée. Je me suis débrouillée comme j'ai pu. J'étais dans un pays étranger. Bon, je me suis débrouillée. J'ai eu un enfant à 24 ans. Là, elle s'est manifestée pour me faire avorter. Pour insister, parce qu'elle m'a dit tu n'es pas capable d'avoir un enfant, alors que bon, j'avais quand même un père qui était là,
ouais, c'était
terrible. Travaillais, l'enfant était voulu.
Oui.
Bon, mais là, elle s'est manifestée pour essayer de. Voilà.
Mais avec à nouveau des pulsions de mort, quoi, enfin, qu'elle retourne contre elle dans. Elle est très autodestructrice,
exactement.
Votre mère.
Ouais. Vous avez tout compris, elle est dans l'autosabotage. Mm. Voilà, après, en 99, elle nous a plus ou moins déshérités. Bon, elle a fait en sorte que, vu que mon père avait 25 ans de plus qu'elle, qu'on ait rien, si vous voulez. Donc, c'est pas grave, on a tout signé, parce que l'argent ne nous intéresse pas, ni l'une ni l'autre. Donc, bon, elle nous a quand même fait ça. Elle n'a jamais manifesté d'intérêt pour son petit-fils. Ni pour l'enfant qu'a eu ma sœur des années après. Voilà. Donc, elle a été absente.
Ouais.
Elle a été dans un repli sur elle-même.
Ouais.
Et en plus, elle est devenue non-voyante. Dans une espèce de maladie auto-immune. Sûrement due au stress, une maladie rare auto-immune. Ouais. Qui fait qu'elle est on va dire très malvoyante. Elle voit quelques lumières, mais elle ne peut plus voir un visage. Elle ne peut plus lire un texte. Elle distingue une vague lumière. Voilà. À la 0,2.
Donc, et comment vous le savez, ça vous êtes en contact avec elle
Oui, justement, voilà. Ce qui s'est passé, c'est que ma sœur a repris contact l'année dernière,
oui.
en disant, mais on a une mère, vu qu'elle a eu un enfant, elle a eu un enfant récemment, elle a eu besoin de se rapprocher de ma mère. Elle a repris contact.
Oui.
Donc ma mère est un peu sortie de son repli, mais elle nous appelait une fois par semaine le dimanche. Donc moi j'étais contente, bon, j'avais fait le deuil d'une mère, mais bon, je me suis dit après tout. Voilà, bon. Ah oui, je voulais vous dire, il y a 5 ans, je suis allée la voir là-bas. J'ai pris une location parce qu'elle ne peut pas nous prendre chez elle, parce qu'elle a des tocs de propreté. En plus, elle a des tocs, elle fait 5 heures de ménage par jour. En étant non-voyante, donc c'est-à-dire tout est ralenti, vous voyez.
Oui. Elle vit seule.
Oui, elle vit seule. Mon père est décédé.
Ah, votre père est décédé. D'accord.
Voilà. De toute façon, elle vivait seule avant parce qu'ils vivaient séparément. Ils ne pouvaient plus vivre ensemble à cause de ses problèmes. Elle ne pouvait pas prendre un repas avec qui que ce soit. Donc,
c'est terrible. Hein, vous avez vécu dans un environnement très carencé. Heureusement qu'il y a cette grand-mère a pu vous apporter une sécurité affective, une attention.
Ah oui,
mais entre les problèmes d'alcool de votre père, l'anorexie de votre mère, ses tocs, c'est un vécu très très abandonnique. Hein.
Oui, totalement. J'avais fait le deuil. Bon, je me suis construite sans mère, ma sœur aussi. Bon, comme on a pu, on a élevé.
Mais il y avait cette grand-mère paternelle qui était une figure maternelle, heureusement pour vous.
On
se construit rarement sur du manque. Hein. Et à vous entendre, m'en parler de votre enfance quand même comment dire, très abandonnique, avec cette voix, avec votre voix très posée. Oui, je me dis qu'il y a eu du travail, mais il y a eu aussi la présence de cette grand-mère et qui a permis de vous construire, certainement, quand même,
oui,
malgré le
manque. Ouais. Oui. Ouais, elle nous a donné quand même une structure, même
une colonne vertébrale.
Des carences, hein. Oui. Bon, ça n'a pas été facile tous les jours, mais voilà, elle nous a donné la base, je pense.
Oui, oui.
Voilà, donc ma sœur a repris contact avec elle. Donc elle, oui, a dit, bon d'accord, on s'appelle une fois par semaine le dimanche. Elle est un peu sortie de son repli. Mmh. Il y a eu le confinement qui est arrivé. Il faut savoir qu'elle mange une fois par jour et qu'elle doit aller au restaurant parce qu'elle ne peut rien salir chez elle. Donc elle va au restaurant tous les midis et c'est là qu'elle mange. Sauf que le confinement est arrivé, plus de restaurant. Eh bien, elle a arrêté de manger. Et ça, sans nous le dire. Donc, on continuait, ouais, de la voir tous les dimanches au téléphone. Elle nous parlait de la pluie, du beau temps. Mmh. Je lui disais, mais tu manges bien, qu'est-ce que tu manges exactement? Bon, et en fait, elle nous mentait, puisque au mois de février, la voisine du dessus nous a appelé en disant, votre mère est à l'hôpital, elle pèse 32 kilos.
Oh
pour 1m65.
Oh là là, oui, c'était, donc, il était grand temps urgent de l'hospitaliser. Oui.
Elle était, son processus vital était.
Ah oui, bah elle est engagée, ça c'est clair.
Engagée. Oui. Donc du coup, l'hôpital n'a pas voulu la garder quand ils ont su qu'elle avait deux filles. Donc on a débarqué là-bas avec ma sœur. On l'a reprise en main. On a pris une location parce qu'on ne peut pas aller chez elle, parce qu'à cause de ses tocs de propreté. Donc on a pris une location. On est resté plusieurs semaines là-bas. On l'a reprise en main. On lui a donné à manger, etc. Je lui ai fait à manger matin, midi, soir.
Ça doit être dur pour vous de vous retrouver là, H24, avec elle.
Très dur, oui. Parce que, je ne sais pas comment, si vous voulez, elle vous prend toute votre énergie.
Ben oui, oui, je
comprends.
Elle
est tellement en demande.
Oui, oui. Elle vous dévore, vous.
Complètement. Il m'a fallu plusieurs jours pour me remettre parce que c'est H24. En plus, elle dort pas la nuit, donc elle dort.
Pourquoi elle ne dort pas la nuit? Qu'est-ce qu'elle fait?
Parce qu'elle a toujours été insomniaque et que vu qu'elle était dénutrie, enfin, je vais pas aller dans les détails trop morbides, mais vu qu'elle était dénutrie, ça causait des douleurs épouvantables. Donc elle pouvait pas rester allongée, elle pouvait pas rester debout, elle pouvait plus rien faire.
Ouais.
Donc c'était du H24, en sachant que depuis tout ce temps-là, elle refuse forme d'aide. C'est-à-dire les thérapeutes, c'est hors de question.
C'est bien
les
ça, psychiatres, le problème. Oui.
Elle en a vu, évidemment, quand plus jeune, quand elle était déjà entre la vie et la mort. Bon, les psychiatres, elle est traumatisée. Elle les voit comme des ennemis. Oui. Ils avaient des méthodes à l'époque pour l'anorexie mentale qui étaient particulières.
Oui, c'est vrai.
Et donc, elle ne veut plus entendre parler de psychiatres. Oui. Les psychologues, c'est pareil, c'est tout dans le même sac. Mmh, mmh. Donc, toute aide thérapeutique est
opposition.
Exclue.
Bah, d'ailleurs, on a dû, étant donné l'état dans lequel elle se trouvait lorsqu'elle a été hospitalisée, vous me dites que l'hôpital, sachant que, bon, elle avait deux filles, a fait appel à vous, mais parce que ça, elle aurait besoin de soins en psychiatrie, votre mère. Une fois que l'état était stabilisé. Vous l'avez vu, le psychiatre?
Le psychiatre nous a téléphoné, oui. Bah, a dit c'est une anorexique professionnelle dans le déni parce que elle n'est pas anorexique.
Et c'est terrible. Ouais. Et c'est terrible.
Elle dit que c'est parce que les restaurants étaient fermés.
Mais bien sûr que non. Enfin.
Bon. Voilà.
Oui.
Donc depuis le mois de février, eh bien, elle a complètement vrillé de l'autre côté, si vous voulez. Oui. Elle a décidé de vivre, mais de vivre, ça veut dire récupérer ses filles. Alors pas les petits enfants, par contre. Enfants, ils ne l'intéressent absolument pas. Mon fils ou le fils de ma soeur, un fils de 3 ans, non, c'est ses filles.
Mais alors, comment ça, récupérer ses filles?
Eh bien, pour qu'on s'occupe d'elle.
Ah oui, d'accord, dans ce sens-là. Oui, c'est-à-dire que c'est à vous, comme vous étiez venu vous occuper d'elle en vous relayant avec votre soeur, elle voudrait que ça continue, en fait, que vous preniez soin d'elle aujourd'hui.
Je pense qu'elle a trouvé ça confortable.
Oui. Ben oui.
Par rapport à la solitude qu'elle s'était infligée toute seule, parce qu'elle ne s'est pas fait un seul, ça fait 30 ans qu'elle est là-bas, elle ne s'est pas fait un seul ami, une seule amie.
Mais elle ne peut pas. Elle est tellement dans ses obsessions, dans sa rigidité, dans le contrôle.
Voilà.
Oui, quand vous décrivez que quand même ces tocs l'amènent à faire 5 heures de ménage, qu'elle ne peut pas, enfin même manger chez elle, qu'elle doit aller au restaurant et qu'est-ce qu'elle mange. Enfin, vous voyez, il y a de place pour personne en fait.
Voilà, c'est ça. Personne ne peut venir chez elle.
Non, elle peut pas.
Elle a des horaires, tout est minuté, parce qu'à telle heure, il faut qu'elle rentre, faire tel ménage. Elle a une routine qui la rassure. Et du coup, il n'y a pas de place pour autre chose.
Oui.
Donc, depuis le mois de février, je suis retournée deux fois là-bas, des séjours à chaque fois de 4-5 jours, qui me prennent toute mon énergie.
Oui. Mais je comprends.
Parce que il faut que je prenne. Bon, moi en plus, je suis libérale, je ne suis pas payée pendant ce temps-là. Bon, admettons, je dois payer le voyage,
quand même, ça
paye l'allocation. Sachant qu'il me faut des vacances après ça, parce que.
En ressortez exsangue de quelques jours. Oui, je veux bien croire, je veux bien vous croire. Oui.
C'est des sollicitations
H24. Ah oui, c'est... jour et nuit, oui, puisque même la nuit, elle ne dort pas. Oui, c'est pas possible, ça ne peut pas durer comme ça.
Elle dort 1 à 2 heures par nuit. Quand elle dort, des fois, elle ne dort pas du tout.
Elle a quel âge aujourd'hui, votre
65 ans.
Oui, mais elle doit faire beaucoup plus âgée.
Oui.
Parce qu'elle est très, elle est dans un état physique très délabré.
Voilà, c'est ça. Donc, voilà. Et donc, depuis, ma sœur a craqué.
Oui, bah je comprends. Votre sœur, elle a ce petit enfant là de 3 ans, c'est ça?
Oui, avec qui elle est fusionnelle, qu'elle allait, il va avoir bientôt 4 ans, elle allait encore. Et ma mère a exigé qu'elle vienne sans le petit.
Oui, mais parce c'est insupportable. Que... Enfin, de, vous voyez, elle est très tyrannique, mais bon, ça fait partie de sa pathologie. Oui,
voilà.
Elle est dévorante, elle vous.
Elle est comme une enfant, en fait, qui a besoin de toute l'attention.
Et... Oui, c'est ça. Mais comme une enfant, même un enfant plus grand, on peut lui dire non, et puis pas la nuit, il dort. Elle est comme presque un nouveau-né, là. Vous voyez, c'est du H24.
Voilà, mais elle se met en compétition avec son petit-fils.
Mais oui, c'est pour ça qu'elle ne veut pas les petits-enfants. C'est elle, le bébé qui dévore tout et... Oui. Qui veut de l'attention.
Alors moi, le mien est grand, il a 19 ans, mais je me suis mise en couple il y a 2 ans. J'ai une compagne, en fait.
Oui.
Et donc, ma mère est jalouse de ma compagne. Donc, c'est-à-dire quand je suis avec elle, elle compte le nombre de coups de fil que j'échange avec elle. Elle compare avec... Oui. Bon, elle fait une comptabilité de ma disponibilité au téléphone. Quand ma compagne appelle, quand je suis là-bas... elle trépigne. Comme une enfant de.
Mais comme une enfant de 3-4 ans qui pourrait trépigner quand sa mère est au téléphone, oui.
Voilà. Et il y a peut-être un mois de ça, avant les vacances, ma compagne m'a dit parce que là, ma mère, c'est deux fois par jour au téléphone.
Oh là 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 là.
À ses horaires à elle, parce qu'évidemment,
c'est
minuté, il faut que je me rende. Disponible. Et quand parfois mon travail, parce que c'est des horaires très précis, avec mon travail, je ne fais pas ce que je veux. Donc je la préviens avant, je ne serai pas disponible. À telle heure, j'ai quand même 3, 4, des fois c'est aller jusqu'à 12 messages téléphoniques pleurs, qu'elle est désespérée, qu'elle a tellement besoin de m'entendre. La culpabilité.
Mais elle joue sur un ressort puissant, bien sûr, qui est terrible et qui fait mouche à tout coup, c'est la culpabilité, oui.
Voilà. Et vu que ma sœur a craqué, ma sœur a été un peu virulente, parce que ma sœur ne s'est pas ménagée pendant ses séjours là-bas.
Oui.
Et du coup, elle a craqué, elle a été assez tranchante dans ses propos.
Oui.
Et du coup, ma mère ne veut plus entendre parler de ma sœur.
D'accord.
Et maintenant, elle est. Donc, c'est moi.
Ça repose sur vous. Oh non, mais c'est pas possible, Valérie. Pourquoi je l'appelle Valérie, Cécile? C'est pas possible. Hein. Enfin, pour vous, c'est vous qui allez tomber malade.
C'est-à-dire que, si vous voulez, chaque coup de fil, ça me m'attire vers un univers qui est très. Comment vous dire? C'est très glauque. Autant elle peut être. Attention, elle est adorable. C'est une femme qui n'a aucune méchanceté. Elle peut être manipulatrice. Hein.
Qu'elle peut, c'est qu'elle est.
Oui.
Ça fait partie aussi. Enfin,
comme
on retrouve ça dans. Pas seulement. Comme les enfants, bien sûr. Vous avez raison. Les enfants peuvent être un peu manipulateurs pour obtenir ce qu'ils veulent de leurs parents, bien sûr. Mais là, ça fait partie de sa pathologie. Parce qu'on est dans la pathologie, là, dans ce que vous décrivez. Et elle risque de vous entraîner dans sa folie. Non pas que vous deveniez folle à votre tour, mais malade. Et on sent à quel point, malgré votre histoire, vous êtes une fille aimante. Puisque oui, même là, quand vous m'en parlez, vous me dites « elle est adorable ». Oui, enfin, c'est surtout, elle exerce une tyrannie puissante. Oui. Elle est adorable si on s'occupe d'elle et si tout tourne autour d'elle.
Oui, ça va dans son sens.
Ben oui, mais...
Tout à fait. Et avant les vacances, ma compagne m'a dit, bon, en gros, ta mère, deux fois par jour au téléphone, c'est deux picouses de, comment vous dire, c'est peut-être dur ce que je dis, mais c'est comme des picouses de déprime, en fait.
Ah mais non, je comprends très bien, c'est pas dur, c'est je comprends que vous ressentiez cela. Elle vous entraîne vers le fond, oui. Bien sûr.
C'est un univers très particulier le
Oui, ben c'est l'univers, c'est de la pathologie mentale hein. Donc
voilà.
Oui.
Et du coup, c'est vrai qu'à chaque fois que je raccroche le téléphone, je suis bon, pas aussi exsangue que je peux l'être lors des séjours, mais je sens qu'elle me prie une partie de moi quand même, vous voyez.
Oui, il faut que vous soyez solide mais vous avez la difficulté parce que elle joue sur ce ressort puissant qu'est la culpabilité. Et la difficulté, c'est de vous protéger parce que c'est un puits sans fond.
C'est un puits sans fond. Alors, avant les vacances, je lui ai dit, bon, pendant les vacances, je partais 15 jours, je lui ai dit que j'allais me couper mon téléphone. Alors,
oui.
Pour qu'elle ne le prenne pas personnellement, j'ai dit oui parce que je suis dans le médical, donc j'ai dit j'ai des patients qui peuvent m'appeler, enfin bon, oui. J'ai un petit peu, pour ne pas la vexer. Donc,
vous êtes gentille,
dit, j'aurai le téléphone.
C'est vous qui êtes adorable avec elle. Mais si vous êtes pleine de sollicitude et vous en prenez soin, comme finalement, comme c'est votre mère, mais comme une patiente, vous percevez bien aussi, d'ailleurs, vous occupez de patients. Enfin, vous êtes pleine de prévenance, vous voyez, pour pas.
C'est vrai qu'elle est, touchante parce qu'elle est tellement, je sens tellement sa peine et je pense qu'elle est sincère dans sa peine que c'est comme si c'était moi. C'est de l'empathie quelque part. Mais c'est,
elle oui, parce que vous êtes voilà. Comme ça. Parce que certainement aussi, oui, elle vous, c'est ce que je redoute pour vous, à vrai dire, Cécile. C'est justement, c'est votre empathie à vous. Face à son absence d'empathie à elle. Enfin, c'est-à-dire que comme une personne qui va très mal et qui, c'est même pas de l'empathie, c'est-à-dire quelqu'un qui va très mal et forcément complètement centré sur elle-même.
C'est ça.
Elle pense pas à vous, à votre fatigue, si elle pensait un instant à vous, d'ailleurs, elle vous demanderait pas de venir sans votre fils. Enfin, voyez, c'est, Comment vous pourriez vous protéger de ça pour ne pas être aspiré?
Ben, j'ai l'impression, si vous voulez, j'ai essayé de couper le télé. Donc je lui ai annoncé
oui, pendant
ça,
les vacances, vous m'expliquiez, bon. Là, vos 15 jours.
Mais alors, la réaction a été terrible. C'est-à-dire qu'elle c'était des pleurs, des cris. C'était
ça.
Une scène de. Comme si, enfin, je ne sais pas, comme si j'avais tué quelqu'un. Et j'ai pourtant mis les formes, mais elle l'a très très mal vécu. Elle m'a dit, j'ai compris que tu préférais ta compagne à moi, alors que j'ai besoin d'être l'amour unique de quelqu'un. Elle mélange tout, en fait.
Voilà. Oui. Bah, oui.
Et du coup, elle m'a dit, puisque c'est comme ça, je coupe les ponts. Et elle a raccroché.
Bah, ça serait bien pour vous. Si elle pouvait seulement.
Je peux vous dire que j'étais triste sur le moment parce qu'elle a tellement pleuré au téléphone que une vraie peine qui ça sortait de ses tripes.
Oui, mais une peine, elle pleure sur elle-même hein, beaucoup.
Oui.
Je suis désolée de vous le dire comme ça, mais c'est beaucoup sur elle-même. Hein.
Oui, tout à fait. Oui.
Vous, dans tout ça, le mal, enfin là. Parce que là, qu'elle se sente abandonnée, oui, mais enfin, elle sait vous le dire et vous le reprocher, vous culpabiliser. Et finalement, il n'y a aucune remise en question sur le fait de. Bah, vous avez grandi alors dans un univers où elle ne pouvait pas s'occuper de vous parce qu'elle était trop malade. Et puis, bah, quand vous avez eu 12 ans et votre sœur 10 ans, elle est partie sans savoir, sans se soucier ni comment, ni quoi.
Je lui ai quand même dit, je lui ai dit, je lui ai dit, tu sais, moi, je fusionne avec ma compagne. Aurore, pardon, j'ai dit son prénom, ma sœur, fusionne avec son petit.
Elle lui donne tout ce dont elle a manqué, elle aussi.
Voilà. Et je lui ai dit, on s'est construite, mais nous ne nous reproche pas d'être dans des trucs fusionnels.
Non, ça sera un comble.
Voilà.
Parce que vous en avez, vous, manqué de...
Et elle me dit, bah, justement, c'est pour ça que maintenant je reviens, je veux tout rattraper.
Mais c'est impossible.
Voilà.
Et d'abord, on ne peut pas rattraper le temps qui s'est écoulé, puisque vous n'êtes plus des enfants aujourd'hui. Et puis, ouais, elle rattrape avec à sa façon à elle. C'est-à-dire que c'est elle l'enfant et c'est vous la mère. Mais un enfant, voilà, extrême, un enfant, il grandit, et au fur et à mesure où il grandit, il prend de l'autonomie, et il ne vous accapare pas H24.
Oui, c'est ça.
Elle alors, est restée comme un nouveau-né, qui faut, c'est les premiers temps de vie d'un bébé, ben c'est du H24.
Oui, et en plus, elle me met dans une espèce d'impuissance, parce que je lui propose, j'essaie de trouver des solutions pour elle, parce que chaque étape de la journée est un problème, est compliqué. Donc à chaque fois j'essaie de trouver des solutions concrètes. J'ai dit, bah, si tu veux, on te prend un téléphone pour l'envoyant, ça existe, pour lui faciliter la vie, pour lui donner un peu d'autonomie. Bon, le téléphone, ça n'a pas pu marcher parce qu'elle a trouvé moyen que ça marche pas. Ça va pas s'en servir. Pourtant c'était simple, c'est fait pour les non-voyants.
Mais elle ne veut pas, au fond.
Oui.
Et c'est ça, c'est que on voit moi j'ai beaucoup de tendresse pour vous en vous écoutant, parce que vous déployez des trésors de patience, de compassion, de tendresse. Et en fait, c'est pour vous que je crains. En vous écoutant, Cécile, je me dis, comment faire pour que vous preniez vous soin de vous, vous soyez pour vous une bonne mère, celle que vous êtes pour votre mère. Je crains qu'elle vous aspire, elle est dévorante. Elle est dévorante par sa pathologie. Je suis désolée d'être clinique, hein, là où vous parlez, il y a un langage de tendresse, je suis volontairement clinique. Elle est très malade, votre mère, et vous le savez, mais il y a aussi le poids de l'amour, du manque, de la culpabilité, tout ça mélangé, qui est très dur à vivre pour vous. Mais votre mère, c'est de soins dont elle a besoin, psychiatrique, et peut-être, et ça pourra pas durer longtemps comme ça, et je pense qu'il faudrait qu'elle soit à un moment dans une structure spécialisée. Vous ne pourrez pas faire face. Je suis désolée de vous le dire comme ça, un peu brutalement, mais je crains que vous vous épuisiez.
Ouais, c'est comme ça que je le vis au quotidien. C'est comme ça, même si j'essaye de mettre des limites, de couper mon téléphone, de la prévenir avant, mais j'ai quand même tous les messages, dont je ne les écoute pas, mais je ne les écoute pas tous, parce que des fois j'en ai 12. Tout à l'heure, j'ai pris du temps avec elle au téléphone, et pourtant j'avais vraiment autre chose à faire, mais j'ai pris du temps, j'ai dit comme ça, c'est comme lui donner sa dose de... Mais derrière, j'ai eu 3 messages après avoir raccroché, que quand elle raccroche avec moi, qu'elle pleure... qu'elle a besoin de me refaire un bisou par téléphone, parce que c'est trop dur de raccrocher à chaque fois. C'est un puits sans fond. Et plus on lui donne, et plus elle nous...
C'est-à-dire que plus elle vous donne, plus vous lui donnez, plus elle va vous en demander. Elle est dans un fonctionnement extrêmement tyrannique vis-à-vis de vous. Alors, bien sûr que c'est lié à sa pathologie, mais le problème, c'est, comment vous le dire, Cécile, souffrir n'autorise pas tout. Vous êtes dans le domaine médical, je ne sais pas dans quel ordre, vous me parlez de patients dont vous preniez soin, mais vos patients, même si vous devez certainement le faire avec beaucoup de dévouement, et vous êtes certainement un soignant hors pair, une soignante hors pair, parce que vous avez développé cette extrême sensibilité, empathie, mais vos patients, à un moment, quand le travail est terminé, le cadre est posé, ils n'empiètent pas sur votre vie privée.
Oui, exactement.
Le problème, c'est que j'entends que ces qualités que vous avez développées, que vous déployez dans votre pratique professionnelle, vous les exercez aussi auprès de votre mère. Cette infinie patience, cette très grande empathie, cette très grande sensibilité à la douleur de l'autre. Le problème, c'est que c'est pas une patiente, c'est votre mère.
Oui.
Et que là, il n'y a plus de limite. Il n'y a plus de vacances, il n'y a plus de soirées, il n'y a plus de nuit, c'est tout le temps.
Oui, c'est vrai. Ouais.
Et que vous avez beau essayer de lui mettre des limites, j'entends ça, elle n'en a aucune. Elle vous dévore. Je répète cela volontairement, parce qu'elle est dans cette problématique-là de dévoration.
Oui.
Et effectivement, la fusion lui est insupportable quand vous parlez de votre sœur et de son petit garçon, parce que c'est ce qu'elle veut. Mais en fusionnant, on absorbe l'autre. L'autre n'existe plus.
Oui, c'est vrai.
En fait, il n'y a plus qu'elle. Et à un moment, et ce qui est compliqué certainement pour vous, c'est que vous êtes dans cette double position de fille et aussi de la soignante que vous êtes devenue, et votre histoire est certainement liée aussi à cela. Et ça a mené aussi ces qualités que vous avez, mais qui ne doivent pas maintenant vous. Votre mère est dans un processus d'autodestruction,
où
elle ne demande pas d'aide aux gens qui auraient pu l'aider depuis des années. Elle refuse l'aide.
Oui.
Et c'est pas de l'aide qu'elle vous demande là. C'est de la prendre totalement en charge. Comme un bébé avide et qui n'en a jamais assez.
Oui, c'est bien résumé. Oui. Oui.
Je reçois beaucoup de messages pour vous. Vous voulez que je vous en lise quelques-uns,
oui,
peut-être
bien sûr,
avant
oui.
qu'on continue. Il y a quelqu'un qui dit « Vous avez non seulement le droit, Cécile, mais le devoir de vous protéger. Vu de l'extérieur, cette situation est très injuste. Pardon de vous le dire, mais vous ne lui devez rien. » C'est Francesca qui parle de non-dette. C'est vrai qu'on a toujours, vis-à-vis de ses parents, cette notion de dette.
Oui,
dette de
vrai.
Vie, dette des soins qu'ils nous ont prodigués. Et Francesca, bon, elle dit bien, après tout, elle parle là de non-dette. Il y a Brigitte qui dit « Elle ne vous prend pas en compte. Alors vous, essayez de le faire. N'attendez pas sa bénédiction. Faites ce que vous devez à vous-même. »
Oui.
Et Brigitte ajoute « Elle ne veut que se plaindre, que vous vous occupiez d'elle comme un enfant. Prenez la mesure de son état, mais aussi de vos besoins. » Et de vos limites. Pourquoi ce sacrifice aujourd'hui? Parce que c'est vrai que là, ça pourrait tourner effectivement à un sacrifice de votre part.
Oui, elle s'est appuyée là. Voilà, elle s'est s'engouffrée dans les
dans vos manques. Parce que ce qui est terrible dans votre histoire, où vous avez manqué terriblement de mère et aussi de votre père qui était dans ses problèmes d'alcool, où vous avez dû, heureusement qu'il y avait votre grand-mère, on y revient, mais vous avez certainement grandi trop vite, précocement, enfin, vous avez dû développer une hypermaturité. Et je comprends, quand je parlais de ce documentaire, vos premiers mots, ça a été de me dire « je vais le regarder ». Alors, vous avez grandi dans un contexte abandonné qui c'est une source de traumatisme pour un enfant. Et là où il y a quelque chose de difficile à gérer au fond pour vous, c'est que cette mère qui vous a manqué pour tant de raisons. Aujourd'hui, c'est elle qui est en demande, et au fond, en étant elle, vous vous occupez d'elle, c'est que c'est une aussi, vous vous rapprochez d'elle. Vous êtes proche d'elle, mais malheureusement, il n'y a pas d'échange. Il n'y a pas d'échange, voyez ? Parce que.
Sur le plan intellectuel, oui, parce que.
Parce que elle doit contrôler, oui.
Oui, elle est.
Oui. Oui, sur le plan intellectuel, qu'est-ce qui se passe sur le plan intellectuel entre vous deux ?
Bah, il peut y avoir des échanges, où on peut échanger sur des sujets.
Vous voyez, vous-même, vous avez du mal à me dire au fond, parce que c'est pas un échange au niveau intellectuel que vous recherchez, Cécile. Vous, quand vous me parlez de votre mère, vous n'êtes pas du tout dans l'intellectuel. C'est un langage du cœur. C'est de l'affectif dont vous me parlez. Et c'est cet affectif qui risque de se retourner contre vous. Vous avez pu, vous, développer une hyper-affectivité, une hyper-sensibilité, une hyper-empathie. Il ne faudrait pas que ça se retourne contre vous.
Oui.
C'est ce que dit Brigitte, c'est comme une quête impossible de l'amour que vous n'avez pas eu. Et la dame de cœur dit, on se demande qui est la fille, qui est la mère, elle va vous vampiriser. Il y a l'homme au camélia qui dit, c'est pas de l'aide que réclame cette mère vampire, c'est un sacrifice absolu. Elle réclame ce qu'elle n'a pas su donner à ses filles. Vous voyez, ce qui ressort, c'est dévorer, vampire, c'est de cet ordre-là. Et écoutez-vous, quand vous l'avez au téléphone, deux fois par jour, vous sentez après, vous êtes aspiré par le vide, un vide dépressif.
Parce que
c'est ça en fait, c'est du vide qu'elle vous renvoie, et que vous, vous devez remplir.
Oui.
Et il faut tenir compte, c'est-à-dire en fait, il faut tenir compte de vos besoins à vous. Et j'aime beaucoup ce message de cette auditrice qui dit que vous avez non seulement le droit, mais le devoir de vous protéger. Le devoir vis-à-vis de vous-même, Cécile.
Oui.
Vraiment.
Oui, merci. Hein. Ça fait joli de vos auditeurs.
Ils sont très fins. Je trouve, il y a une qualité dans leur réflexion. Ils vous écoutent, mais il y a une qualité dans leur réflexion, une finesse d'analyse, oui.
Et ça va tout
dans le même sens. Hein.
Oui.
Il y a Francesca qui dit « Attendez-vous enfin cet amour, au fond, qu'elle ne vous a pas donné. » Elle dit « Elle ne peut pas vous donner de l'amour. Elle est incapable. Enfin, elle ne peut pas en donner. »
J'en avais fait le deuil, mais j'ai mis du temps.
C'est très dur. Elle a ravivé quelque chose en faisant appel à vous. Ouais. Elle a réactivé quelque chose. Un deuil de mère, ça fait partie des deuils très difficiles à faire. Qu'on peut faire, parce que d'un manque d'amour maternel, pensée, réfléchie, éprouvée, parce que c'est quelque chose qui s'éprouve avant de s'intellectualiser, mais qu'on peut travailler en thérapie, élaborer. On peut en faire quelque chose. On peut devenir soignant. vous avez réussi, mais maintenant, il faut que vous continuiez, vous, à être cette bonne mère pour vous-même. Avant toute chose, et être une bonne mère pour vous-même, c'est prendre soin de vous et ne pas vous laisser abîmer. On va aller voir du côté de la page Facebook, je crois que ça réagit aussi beaucoup, Paul.
Oui, et tout le monde va dans le même sens, hein. C'est comme pour les SMS, il y a le valet de cœur qui utilise aussi ce verbe vampiriser, qui puise dans votre énergie vitale, donner, c'est superbe, vous le faites très bien, mais à condition de recevoir également, pour vous recharger, préservez-vous, protégez-vous, votre force et votre amour n'est pas sans limite, attention, tout le monde vous met en garde. Il y a Christian qui utilise, lui, le verbe ronger. Que de chaos dans cette existence jalonnée d'étapes douloureuses. Vous avez un courage qui force l'admiration et le respect. Je suis très très touché. Vous êtes un monument, mon émotion est sincère. Ouais. Gardez votre force qui vous porte. Recevez ma solidarité et si vous le souhaitez, mon amitié. Écrit Christian. Il y a Cécile qui dit, Cécile, vous devez vous protéger, vous vous oubliez énormément, c'est beau ce que vous faites, mais attention, effectivement. Il y a aussi Isabelle qui dit, Cécile, pensez à vous, c'est noble de vouloir vous occuper de votre mère, mais cela va vous coûter trop personnellement. Moi, ma mère ne s'occupait pas de moi, m'abusait émotionnellement et ne m'a jamais soutenue. Alors j'ai coupé les ponts à 35 ans, ça a été libérateur. Quoi que l'on fasse pour ces « mamans », entre guillemets, écrit Isabelle, elles ne seront jamais les mères que nous souhaitons fuyer. Et il y a encore Cécile, parce que c'est la réunion des Céciles ce soir, j'ai l'impression.
Vous c'est êtes la toutes solidarité. Des Céciles,
et toutes des Céciles qui ont eu des mères difficiles. Elle a écrit sur parlons-nous@rtl.fr, sur l'adresse mail. Elle dit « Fuyez cette tyrannie, vous avez le droit à une vie psychologique décente. Ne renversez pas les rôles, vous n'êtes pas la mère de votre mère. Votre mère est trop égoïste, elle va vous détruire. »
Moi, je crains qu'elle vous démolisse, oui. Oui, et je comprends complètement, je rejoins à la fois l'inquiétude des auditeurs et des auditrices, et puis en même temps, quand on vous écoute, on se dit qu'est-ce qu'il vous a fallu comme courage, comme force, comme énergie vitale pour vous sortir de cette enfance déstructurée, pour vous construire, pour devenir soignante. Alors attention à ne pas démolir, à ne vous laisser démolir.
Oui.
Il y a Brigitte qui, peut-être, ce sera le mot de la fin, elle dit, elle vous renvoie un grand manque d'amour alors que vous donnez tout. Vous avez votre compagne, cherchez ailleurs et en vous d'abord. C'est pas rien d'avoir une compagne, finalement, d'avoir choisi pour objet d'amour une femme. Il y a quelque
plus
chose.
Plus avec moi aussi.
Oui, il y a quelque chose de très lié aussi certainement à votre histoire. Et je crois qu'il faut vraiment que vous soyez un peu, peut-être, et vous avez certainement dû l'être, mais à nouveau un peu accompagné sur le plan psychologique.
Oui, pour passer cette.
Oui,
cette période,
oui, qui est vraiment très difficile pour vous parce que ça vous ramène à tous vos manques.
Oui, oui, pour trouver, je pense qu'une solution qui conviendrait à ma mère et à moi n'est pas possible en fait.
Difficilement.
Oui.
Difficilement. Oui. Il va falloir vous protéger en mettant peut-être en place quelque chose, si ça peut, pour ne pas être rongé par la culpabilité ou finalement par le biais de structures, de personnes extérieures, professionnelles qui pourraient prendre soin d'elle. Si elle le refuse, elle le refuse. Mais seul vous allez vous abîmer. Donc je pense qu'il faut vous être un peu accompagné, voyez, psychologiquement, pour reparler de cette relation et de cette dépendance folle dans laquelle elle vous entraîne.
Oui, je vais le faire. Je vais.
Oui, je pense que c'est important.
Je vais rappeler peut-être ma thérapeute, ma psy. Oui.
Oui, 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 pour, comme vous dites, traverser cette période-là si particulière.
Mm. Oui,
voyez,
qui est venu remuer pas mal de choses.
Et n'oubliez pas que, je rejoins, vous devez avant tout de prendre soin de vous. Vous le valez bien, voyez, vous le méritez. Et vous devez ça à vous-même.
Oui, c'est très beau, oui. Et vraiment, merci aux auditeurs et à vous aussi pour votre éclairage.
Vous pourrez réécouter peut-être, parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de messages. Hein, si vous voulez réécouter quand on a l'antenne, je sais que parfois pris un peu par l'émotion, vous pouvez réécouter les témoignages qui vous ont laissés, notre échange en podcast. Voyez, allant sur RTL.fr, parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de messages très forts pour vous, très subtils, très pertinents. Et qui vont tous dans le même sens. Hein. Vous voyez, on n'a pas fait. Il n'y en a pas un qui a dit.
Vous n'avez pas concerté avant.
Ah non, pas du tout. C'est du direct. Et vraiment, c'est un cœur d'auditeurs qui vous disent vraiment d'être pour vous cette bonne mère, de continuer à l'être.
D'accord.
Je vous embrasse, Cécile.
Moi aussi, je vous embrasse, Caroline. Merci beaucoup.
Merci
à vous.
Merci à Paul. Bonne soirée.
Bonne soirée.
Jusqu'à minuit 30, parlons-nous. Caroline Dublanc sur RTL.
Bonsoir Florence.
Bonsoir Caroline.
Et bienvenue.
Pardon ?
Bienvenue sur l'antenne d'RTL, je vous souhaite la bienvenue.
Merci, je suis extrêmement émue de vous avoir au bout du fil.
Ah bon ? Bah écoutez, j'espère que ça ne va pas vous empêcher de me parler... tranquillement de ce qui vous amène jusqu'à moi ce soir.
Non, ça ne va pas m'empêcher, non.
Alors, qu'est-ce qui vous arrive, Florence ?
J'embraye sur le tout dernier échange que vous avez eu avec une personne dont la maman, apparemment, était un vampire.
Oui, Cécile, à l'instant.
Voilà.
Oui.
Ma relation avec ma mère s'est beaucoup apaisée, mais je pense que l'attitude de vampire est pour beaucoup dans la raison pour laquelle je vous appelle, qui est que ma vie sentimentale est au mieux un désastre. Et au pire, c'est Hiroshima.
Ah ben d'accord, entre les deux,
Oui.
Entre les deux, il s'est passé quelque chose, entre le désastre et Hiroshima. Il y a eu des rencontres, j'imagine. Oui, rire, c'est une façon de... Voilà, de...
D'éloigner le tristesse.
Oui, de, voilà, c'est la politesse du désespoir, parfois.
Exactement.
Oui.
Exactement. Exactement. En fait, j'aurais passé pratiquement toute ma vie de femme adulte seule. Oui. À quelques exceptions près, quelques relations marquantes qui se sont avérées destructrices. J'ai quand même réussi à passer 15 ans célibataire, mais les humains ne sont pas faits pour être seuls. Et donc, j'ai replongé. Hein, voilà.
Et récemment là,
Oui.
Oui.
Comment ?
Récemment, vous avez replongé, comme vous dites ?
Oui, alors, récemment, j'ai ouvert une succursale chez Jardiland, Pelvest et Rato en tout genre. J'ai replongé, mais ça m'a fait mal, mais je m'en remets. En fait, il y a eu une relation importante entre mes 18 et mes 22 ans. Une autre entre 22 et 23. 6.
Oui.
Et puis après, justement, j'ai réussi à rester célibataire et c'était pas plus mal.
C'est intéressant la façon dont vous le formulez. J'ai réussi à rester célibataire.
Oui.
Comme si vous aviez rempli un objectif.
Il y a un moment où, quand la réalité vous satisfait pas, vous faites autre chose. Me semble-t-il. Enfin, c'est ce que j'ai essayé de faire. Et puis, à l'arrivée de la quarantaine, j'étais désespérée. De toute manière, je pouvais faire une croix sur la nombreuse filiation que je souhaitais, parce que j'espérais 4
des enfants.
Gosses.
Ouais. D'accord.
Et j'ai épousé. Alors là, ça a été le troll des trolls. Le plus grand pervers narcissique de mes 3 relations, quoi.
Pourquoi ? Parce que les autres l'étaient également ?
Je me pose la question.
D'accord.
Je me pose la question. Mais en tout cas, celui-là, c'est vraiment celui qui correspond le plus au
Donc,
profil type.
C'est votre dernière histoire, ça ?
Oui.
C'est ça, non ? Et qui s'est terminée il y a combien de temps ?
Ça s'est terminé en octobre 2016, quand j'ai... fichu le camp de la maison que je lui avais trouvé parce que monsieur voulait une maison, un soir où, sous l'emprise de l'alcool, certes, mais quand même, l'alcool a fait que libérer la parole. Je lui ai recraché tout ce que je reprochais à ce que notre relation était devenue. Et je l'ai trouvé très près de moi, l'œil rouge, le teint blanc et le poing à 5 cm de ma figure, en me disant « tu vas la fermer ta gueule, je suis désolée, je parle mal, mais c'est comme ça qu'on m'a parlé ». Et j'ai déménagé, j'ai fichu le camp dans la semaine.
D'accord, oui.
Voilà.
C'est ce qui vous a permis de partir finalement, d'y mettre un terme.
Oui. J'y songeais depuis un moment, mais là, là, j'ai compris que si j'allais plus avant, j'étais en danger, vraiment.
D'accord.
Pas seulement en danger psychologique, mais en danger physique. Pour le danger psychologique, j'en avais déjà tâté un peu, parce qu'il y a eu un moment où j'ai pas été contrainte, que les pervers ne vous contraignent jamais directement, mais j'avais fini par avaler plusieurs plaquettes de calmants.
D'accord.
Bon, ça n'a pas...
Heureusement, ça n'a... Voilà, vous êtes là aujourd'hui pour me parler un peu de votre vie sentimentale, alors que vous qualifiez de désastre. Aujourd'hui, donc vous êtes seule, si je comprends bien. C'est finalement, c'est vous faites un constat, alors sans concession, de votre vie amoureuse, et par rapport à l'avenir, qu'en attendez-vous aujourd'hui? Comment finalement est-ce que vous dites bon, voilà, au vu de ce constat, c'est terminé pour moi, ou au fond j'ai quand même envie d'y croire encore, ou dans quel état d'esprit êtes-vous?
Je suis partagée. Il y a une partie de moi qui me dit, tu vois, t'aurais dû faire comme tu pensais le faire quand tu avais 7 ou 8 ans. J'ai eu une crise mystique, je voulais devenir trappiste. Alors j'ai découvert que les trappistes, ils n'acceptaient que les hommes. Alors c'était ennuyeux.
Et comment ça? Parce que oui, c'est pas banal que vous ayez une crise mystique. Bon, ça peut arriver dans l'enfance, mais pourquoi trappiste
Parce que les trappistes...
Mais comment vous avez connu ça?
Ah, j'ai,
vous avez cherché?
Non, je sors d'une famille extrêmement lettrée et je n'ai jamais eu la télé, donc j'ai toujours beaucoup lu.
D'accord. Et qu'est-ce qui vous attirait alors chez les trappistes?
Mais c'était super. Ils cultivaient leur jardin, ils faisaient de la bonne bière et ils avaient le droit de parler une heure par jour.
Eh oui, mais c'était des hommes.
Bah oui.
Il n'y avait pas de femmes.
Bah non.
Alors,
Après, j'ai envisagé Carmélite.
D'accord.
Ouais. Mais bon, comme dans le bouddhisme, les nonnes sont moins bien traitées que les moines.
Oui, dans beaucoup de religions d'ailleurs, oui.
Exactement.
On va dire. Allez, on va continuer à se parler d'amour après les infos de minuit.
Bien sûr.
Donc restez bien avec nous, Florence.
Ne vous inquiétez pas,
on se retrouve dans quelques minutes. À tout de suite.
Jusqu'à minuit 30, parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTL.
C'est la suite de Parlons-nous, on est à vos côtés et en direct jusqu'à minuit et demi. Tous vos appels sont les bienvenus au standard de Parlons-nous, 09 69 39 10 11, et vos réactions aussi qui sont souvent très attendues par celles et ceux qui témoignent par SMS au 64 900 code RTL, 35 centimes par SMS, ou encore sur notre page Facebook RTL-Parlons-nous. Et on vous retrouve, Florence. On vous avait laissé... en pleine crise mystique, à l'âge de 7-8 ans, voulant devenir, d'ailleurs, on dit moine trappiste, hein. C'est vrai qu'il n'y a pas de nonne. Bon. Quand vous avez vu que ce n'était pas pour vous, finalement, vous êtes devenue une grande amoureuse, parce qu'on sent que l'amour, quand même, a été très idéalisé et a tenu une grande place dans votre vie. Il y a eu des histoires d'amour. Mais à chaque fois, vous êtes tombée sur des hommes qui ne vous voulaient pas que du bien. Ou c'est comme si, au fond, vous alliez vers ceux qui avaient la faculté de vous faire du mal, voire de vous détruire.
Précisément. Précisément. Et c'était précisément le but de mon appel. Parce que j'ai eu le temps de travailler sur moi, j'ai fait différentes thérapies, j'ai fait une psychanalyse complète.
Une psychanalyse n'est jamais complète, vous savez. On peut toujours refaire quelques petites tranches de ci, de là.
Freud disait « analyse commencée, analyse jamais terminée
». Oui,
et après. C'est vrai. Il en reste pas moins que, pour répondre à la question que vous me posiez tout à l'heure, je suis partagée, c'est-à-dire qu'il y a une partie de moi qui dit, je pense ici aux six tentures que l'on trouve à Cluny, la dame à la licorne, la dernière c'est à mon seul désir, et c'est le détachement de tout.
Eh ben vous revenez, oui, au noviciat finalement.
Exactement. Et puis, il y a un côté de moi qui dit, mais c'est pas parce que t'as 50 piges et que tu as perdu une partie de ta séduction que tout est fichu.
Ah, parce qu'à 50 ans, on a perdu une partie de sa séduction, vous pensez?
Oh, en ce qui me concerne, oui. Beaucoup. Beaucoup. Mais pour autant, je ne résous pas pas à l'idée de... Enfin, je ne me résous pas. Si, s'il le faut, je le ferai bien. À l'idée de ne jamais avoir auprès de moi un homme bienveillant.
Mais je... Alors, ne sais vous, pas si... vous avez commencé notre échange en me parlant de Cécile. Oui. Et de sa mère, et vous avez oui. dit finalement, il y a peut-être quelque chose de ce côté-là aussi oui. dans la conception que vous vous faites de l'amour. Alors vous me dites que vous avez fait une longue analyse.
Oui.
J'imagine que vous avez un peu exploré oui. cette dimension-là, parce que bien. Finalement, la façon dont on a été aimé dans l'enfance
ou pas
conditionne beaucoup nos relations amoureuses futures. Mmh. La façon dont on a vu nos parents s'aimer ou pas.
Mmh.
Donc j'imagine que ça, c'est une des dimensions que vous avez explorées dans votre
Bien
psychanalyse.
Sûr. Bien sûr.
Et qu'est-ce que vous avez appris finalement qui pourrait être un frein et qui aurait pu vous conditionner
C'est très simple. Mon début d'existence a été très rock'n'roll. J'ai une mère qui est extrêmement exigeante. Elle va mieux depuis. Mais je devais être sa vitrine à la face du monde, d'une part, et donc je devais être encore plus parfaite qu'elle ne l'était elle-même. Il y avait plus souvent des encouragements à aller plus haut qui étaient formulés sous forme de reproches en mode pas assez.
Vous étiez fille unique ? Vous êtes fille unique ?
Alors, non. Au début, oui. Après, il y a eu une petite sœur. Cette petite sœur est décédée très tôt, à l'âge de 2 ans, alors que j'en avais 5. Et j'ai pas eu de parents pendant 10 ans, à peu près, hein, grosso modo.
Oui, parce qu'ils ne se sont pas remis de...
Ils étaient abîmés dans leur douleur. Oui. Moi-même, j'ai subi un traumatisme majeur à cet âge-là, parce que j'ai fait une mauvaise rencontre avec quelqu'un qui... Bref, j'ai été violée. Et je n'ai pas osé en parler à ma mère.
Parce à 10 ans, que je... vous dites
hum?
À 10 ans
5 ans.
À 5 ans. Donc c'était quelqu'un de la famille?
Non, pas du tout. C'était quelqu'un dans la cage d'escalier.
D'accord.
Et je n'ai pas osé en parler à ma mère, parce que vu l'état dans lequel elle était, les enfants se croient toujours responsables de leurs parents. Je me disais, je ne peux pas lui infliger ça alors qu'elle vient de vivre quelque chose d'aussi douloureux que la mort de ma petite sœur. Et donc, en fait, les relations se sont tissées sur un mode, je dois tout donner et ça n'est même pas assez. Et je pense que c'est ça qui m'a porté beaucoup préjudice.
C'est effectivement des événements, pour ne pas dire des traumatismes. Dites le décès déjà de votre petite sœur.
Oui.
Et le fait que vous l'exprimez, vous dites pendant 10 ans, je n'ai pas eu de parents parce qu'ils étaient dévastés.
Oui,
et donc finalement. Pas en mesure de prendre soin de vous, au point que ce viol que vous avez subi à l'âge de 5 ans, finalement, personne n'a rien remarqué de changement dans votre comportement.
Non. Il a fallu que je l'apprenne à ma mère alors que j'avais 28 ans. Et il a encore fallu que je la console parce que ça a été un terrible traumatisme pour elle.
Et votre père, comment a-t-il réagi? Comment était votre père vis-à-vis de vous? Vous parlez d'une mère extrêmement exigeante. Quelle relation aviez-vous avec votre père?
Peu. Peu. Je pense qu'il a commencé à s'apercevoir de mon existence quand je suis devenue adolescente.
C'est-à-dire, de quelle façon, à ce moment-là, s'est-il, vous êtes-vous rapproché ou s'est-il rapproché de vous?
Ben, à ce moment-là, en fait, lui, de son côté, avait besoin d'être soutenu dans son envie de faire du théâtre, etc., qui lui faisait beaucoup de bien. Et moi, j'avais besoin de vivre ma vie d'adolescente, mais avec une mère qui avait une main de fer. Et donc, on se servait d'excuses réciproques.
J'ai pas compris. Oui, j'ai bien compris ce que vous me disiez, mais ça veut dire quoi que vous vous serviez d'excuses réciproques?
Que je, en fait, j'étais chargée de le dédouaner auprès de maman quand il rentrait tard.
Ah, vous étiez son alibi? Je comprends pas.
Non, pas un alibi, un adoucisseur. Exactement comme pour le linge.
Mais, c'est-à-dire, quand il rentrait tard, c'est vous qui voliez au secours de votre père? Je ne comprends pas.
C'est-à-dire, si maman commençait à râler, je lui disais, mais enfin, tu comprends, c'est important, il a besoin. Je faisais matelas. Entre
Vous faisiez lien, quoi, entre deux.
Ouais.
Vos parents, alors évidemment, c'est le décès comme ça de votre jeune sœur, évidemment, a été dévastateur pour chacun de vous, mais aussi peut-être pour leur couple. Quel couple formait-il? Parce que là, vous dites, bon, au fond, lui, votre père, à un moment, a cherché à s'échapper un peu dans le théâtre, et votre mère n'a rien relâché de cette main de fer, y compris sur vous. C'est-à-dire que vous dites en même temps, vous n'avez pas eu de parents, mais vous me dites que vous avez une mère très exigeante et qui était tout le temps sur vous, il fallait faire toujours mieux.
Juste après le décès, on est parti à l'étranger. Maman s'est repliée sur moi parce qu'il fallait me faire faire l'école, parce qu'il n'y avait pas d'école française là où nous étions. Donc je faisais l'école du pays le matin et l'école française l'après-midi avec ma mère. Je n'avais pas droit à l'erreur. Et pendant ce temps, il y a eu des moments où je me suis demandé si elle ne me faisait pas payer le fait d'avoir survécu, ou le fait de ne pas avoir été finalement la première à passer l'arme à gauche, parce que c'était dans l'ordre des choses finalement.
Mais l'enfant qui est survivant peut éprouver cela parfois, et y compris penser que ses parents pensent cela, même si ce n'est pas la réalité. Mmh. Et parfois, dans certains comportements, ça peut être interprété de cet ordre-là. Mais enfin, on voit bien que vous avez développé, parce que vous me dites, vous m'avez présenté votre famille, les traits et autres, mais là, on est dans le trauma. Mmh. Et on voit que vous avez développé, même quand je vous écoute parler, finalement... C'est comme si pour vous construire, malgré tout, vous aviez beaucoup développé l'intellect, oui. Tout ce qui est cérébral,
oui.
Mais au détriment, peut-être pour survivre, hein, mais vous êtes coupé au fond d'une partie de vous-même, de vos émotions, parce que on voit bien à travers vos rires, l'autodérision que vous pratiquez sur vous, cette mise à distance. De ce qui peut être douloureux, qui est un mécanisme de défense que vous avez mis en place très tôt, et dont vous êtes peut-être un peu prisonnière malgré vous. Parce que est-ce que la thérapie vous a permis de finalement faire émerger, vous reconnecter un peu à vous-même? Parce que là, vous me décrivez à distance. Bon, il y a le décès de votre sœur et le fait que vous, vous étiez très petite. Mais enfin, cette petite sœur qui n'est plus là du jour au lendemain. Et surtout, vos parents qui ne sont plus les mêmes. Parce qu'ils sont dévastés par le chagrin. Et au même moment, et ça, c'est des, consécutif, trauma sur trauma, enfin, quasiment dans un temps rapproché, vous, qui êtes victime d'un abus sexuel à l'âge de 5 ans et dont personne ne s'aperçoit de rien. Donc, ça veut dire que tout a été gardé à l'intérieur de vous, contrôle, vous coupez de votre sensibilité, de toute émotion pour tenir.
Non.
Est-ce que la thérapie, est-ce que la thérapie vous a aidé un peu à vous reconnecter à vous-même ?
Oui, il y a une autre chose aussi que j'ai décelée, c'est que dans la colère de ma mère, vis-à-vis de moi, il n'y avait pas que le fait que j'avais survécu, il y avait aussi le fait que, étant vivante, je l'empêchais de se supprimer elle-même. Parce que moi, je le sentais épidermiquement. Je suis dotée d'une intuition très forte qui fait que Je ne suis pas seulement un être d'intellect, je suis aussi toute antenne dehors, depuis toujours. D'ailleurs, elle...
Oui, certainement, mais pour vous-même, j'entends ça, mais pour vous-même.
Mais pour moi-même, j'ai...
Parce que vos antennes, j'entends très bien, hein, ce qui pourrait paraître un paradoxe, mais qui n'en est pas un. C'est-à-dire que oui, pour vous adapter, pour finalement, face à des parents qui étaient présents, mais retranchés dans leur douleur, il fallait presque deviner, interpréter. Bon. Mais ces fameuses antennes dont vous parlez, malheureusement, pour vous-même, elles ne vous ont pas servi, ou plutôt elles vous ont dirigé vers des hommes qui ne vous ont pas fait du bien, semble-t-il. D'après ce que vous me dites, les rencontres que vous avez faites, vous voyez, c'est comme si là, vos fameuses antennes ne fonctionnaient plus, quand ça vous concerne, vous. Ce qui n'est pas étonnant, d'ailleurs. Hein.
Oui, en fait, ce que je me suis dit à cet âge-là, c'est on naît, on vit et on meurt seul.
À 5 ans.
Pas à 5 ans, un petit peu plus tard, 7-8 ans.
Ouais. 7-8 ans. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi 7-8 ans ? Parce qu'on y revient toujours à cet âge-là.
Parce qu'il me fallait le temps de digérer.
Oui, enfin, on ne digère pas. Un viol subi, ça ne se digère pas comme ça.
Non, puis ça n'a pas été le seul.
Alors, vous voyez, moi, plus je vous écoute, plus je me dis quand même, parce que vous avez commencé à me parler, Florence, en parlant de votre vie sentimentale qui est un désastre. Mais franchement, il y a eu tellement dans votre enfance de drames, de blessures, qu'il y a quelque chose qui reste, qui demeure très douloureux finalement. Et une quête en vous, peut-être d'absolu, d'ailleurs, quand vous parlez de cette crise mystique d'absolu, de calme, de paix, de silence, d'amour aussi, absolu dans la religion, qui vous a fait peut-être d'ailleurs, dans l'amour, entrer en amour comme d'autres entrent en religion, c'est-à-dire totalement.
Oui.
Absolument, complètement. C'est-à-dire qu'on sent chez vous aussi un idéal très fort et qui est, peut être à l'origine de beaucoup de désillusions, finalement.
Non, en fait, ce serait l'épaisseur de mes attentes qui pourrait décourager les pauvres malheureux qui arrivent en face.
J'entends un peu d'ironie dans ce que vous dites.
Un tout petit peu. Un tout petit peu. Ce tout petit peu. Dans l'ironie, il y a aussi une profonde conscience de ses propres manques.
Oui, mais je pense que ça aurait besoin d'être encore un peu. Pour voir au fond ce que vous désirez. Parce que finalement, vous pourriez aussi, aujourd'hui, arriver à 50 ans. Je ne sais pas, vous ne m'avez pas parlé de vous, dans quel domaine vous travaillez, dans trouver d'autres sources d'épanouissement. Non pas que je dise qu'à 50 ans, c'est un âge où on renonce à la séduction, parce qu'aujourd'hui, vous regardez les femmes de 50 ans, franchement, elles ne sont pas exemptes de séduction.
Hein. On est d'accord.
Mais quand on a été très blessé, alors je ne dis pas que c'est une solution en soi, mais quand on a été très blessé, parfois dans le domaine amoureux, on peut
trouver aussi du bonheur, du plaisir, de l'accomplissement, de l'épanouissement dans d'autres domaines. Ça peut être professionnel, ça peut être amicalement, ça peut être à travers une activité artistique. Donc tout dépend ce que vous désirez, parce qu'on sent encore votre très grande ambivalence et on comprend au vu de l'image de l'homme que vous avez. Bon, évidemment, une petite fille agressée dans une cage d'escalier par un inconnu qui ne parle, qui ne porte ce fardeau sur ses épaules pendant des années avant de pouvoir se confier. Vous avez grandi aussi avec une image d'homme terrifiante.
Oui.
Bon, terrifiante. Alors, vous êtes allée, me dites-vous, vers des hommes qui, là, on n'est pas dans le registre de l'agression sexuelle, mais qui vous ont fait du mal psychologiquement. Oui. Donc, on reste dans quelque chose de cet ordre-là. Et puis, peut-être de votre rapport à votre corps aussi, parce que vous m'avez dit, dans un éclat de rire, mais vous me l'avez quand même dit, qu'à 50 ans, de chez vous, il ne restait plus grand-chose de la séduction. Mais peut-être que la séduction aussi, ça a été compliqué. Quand on a été victime d'une agression sexuelle, le rapport à soi-même, à sa propre séduction, est très compliqué. Oui. Parce qu'il y a deux tendances. Soit, effectivement, on fait en sorte, à travers son corps, en s'en prenant à son corps, de faire en sorte de ne plus du tout dégager une image qui peut susciter le désir de l'autre. Soit on peut tomber dans l'hyper-séduction, l'hyper-sexualisation. De son corps. Bon,
tout à fait.
Sont
tout
deux
à fait.
Écueils.
Là, je suis consciente que ces dernières années, parce que j'ai quand j'étais plus jeune et moins abîmée, j'ai toujours beaucoup plu et j'ai toujours perçu ça comme une menace.
Ben oui.
Et donc là, oui, au moins ces cinq dernières années, j'ai fait ce qu'il fallait pour...
Oui, pour qu'il n'y ait plus de menaces.
Pour éviter. Mmh. Voilà. Après la...
Alors, ça commence peut-être un peu par là, parce que, justement, peut-être par vous occuper un peu de vous. Vous occuper un peu de vous aussi pour... la séduction, elle est aussi par rapport à soi-même. Vous plaire à nouveau, ou en tout cas vous sentir bien dans votre corps, vous alléger d'une certaine façon, et peut-être par une prise en charge.
Au sens propre du terme.
Oui, mais c'est pour ça que j'utilise ce terme, c'est-à-dire peut-être par une prise en charge aussi corporelle, quand le corps a été agressé, ça peut être... Alors, il y a plein d'approches, hein, là, il peut y avoir la sophrologie, il peut y avoir aussi des massages un peu thérapeutiques, il peut y avoir plein de choses. Je pense que déjà, il faudrait un peu vous réconcilier avec vous-même, parce que je reçois un petit message de Brigitte qui dit qu'il y a quand même de quoi se déconnecter de soi-même, ce qui crée des failles qui ne favorise pas la rencontre d'hommes bienveillants. Vous l'avez souligné avec une certaine ironie, mais oui, ça déjà, forcément, malgré vous, vous pouvez aller vers des hommes parce qui un peu menaçants, finalement, ou qui réveillent chez vous une insécurité, malheureusement.
Oui, en fait, c'est le coup de rejouer indéfiniment ce qu'on n'a pas réussi à résoudre.
Mais au lieu de voir ce que vous n'avez pas réussi aussi, parce que la façon dont vous parlez de vous-même, ça serait peut-être de voir un peu ce que vous avez réussi aussi dans votre vie et vous appuyer là-dessus. Et peut-être reprendre quand même, parallèlement à une approche un peu corporelle, et prendre soin de vous d'une façon ou d'une autre, vous réconcilier un peu avec vous, votre image, et pas seulement en termes d'image. Peut-être aller à nouveau parler de vous pour trouver un peu d'apaisement et savoir au fond qu'est-ce que vous désirez aujourd'hui, qu'est-ce qui est important pour vous, qu'est-ce qui compte. Bon courage à vous, Florence.
Oui.
Merci pour votre appel. Au revoir.
Merci à vous, Caroline. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous remercie.
J'espère que la nuit va être douce, qu'on a une pensée, une grande pensée, hein, pour ceux d'entre vous qui sont touchés par les inondations. On espère que, comme le dit Bambi, que les pluies vont laisser du répit cette nuit, que ça va être plus calme. On sera là ce soir, bien sûr, toute la petite équipe de Parlons-nous, dès 22h. Et puis si vous voulez d'ici là nous laisser un petit message sur notre répondeur, 09 69 39 10 11. Belle nuit à vous, je vous embrasse.